Jeudi matin. Le soleil est légèrement voilé. L'atmosphère est très lourde.
La cour.
L'avocat général développe son réquisitoire pendant toute l'avant-midi. Il exclut tout autre mobile que le vol pour expliquer le passage à la violence meurtrière. C'est dès qu'il est abordé par le roi à la place Fontenas qu'Abdel prémédite son geste. On est à la limite de l'intention homicide. Certes, au départ, il n'y a pas de violence. Abdel doit suivre les règles du jeu d'une passe. Il se prête sans contrainte aux avances sexuelles de le roi. Il n'y a rien d'équivoque dans le comportement de le roi vis-à-vis d'Abdel. Celui-ci ment lorsqu'après coup, il prétend être offusqué par les avances de le roi. On parle d'argent facile, mais on devrait parler d'une victime facile. Le roi est seul, désarmé. Abdel l'attaque par surprise, le ligote, il le dévalise. Il le torture pour obtenir le code secret de sa carte Visa. Il l'abandonne enfin, blessé à mort. Abdel ne se départit pas de son sang-froid. Il efface ses empreintes et remet à sa place la bouteille bleue avec laquelle il a assommé le roi. Si plus tard Abdel se rend à la police, c'est qu'il n'y a aucune échappatoire pour lui au Maroc. En conclusion, l'avocat général exige une peine sévère. 18 ans de prison.
L'avocat général discourt comme s'il était présent au drame. Tel un journaliste de la presse à scandale, sa démonstration est brillante, même si elle repose sur une interprétation subjective de la conduite d'Abdel et sur des corrélations hasardeuses. C'est comme si la construction logique et la force déclamatoire du réquisitoire devaient avoir plus de poids que la réalité objective des faits, même si elle maltraite ces derniers. J'en suis malade.
Jeudi après-midi. Le ciel s'est couvert. La chaleur est oppressante. La plaidoirie de la défense vise à dégonfler l'interprétation de l'avocat général et à rendre acceptable la version des aveux de l'accusé. Si Abdel va chez le roi dans l'intention de le voler, pourquoi ne passe-t-il pas à l'acte immédiatement? Pourquoi alors le prélude d'ordre sexuel? L'irruption soudaine de la violence n'a qu'une explication logique, la résistance d'Abdel aux secondes avances sexuelles de le roi, à savoir la demande de fellation et de sodomisation. Psychologiquement et culturellement, il doit s'y opposer et le harcèlement de le roi provoque le drame. Abdel craque et roue de coups celui qu'il a perçu comme un agresseur sexuel. Ce n'est que lorsque le roi gît à terre sans connaissance qu'Abdel pense à le cambrioler. Abdel n'est ni grand truand, ni tueur. C'est un petit délinquant de rue minable qui profite de la situation. Abdel est une personnalité déséquilibrée. Son père ne s'est guère soucié de lui. Sa mère était absente lors de son adolescence, mais il n'est pas un psychopathe incapable d'évoluer. Au contraire, le fait d'être revenu du Maroc et de s'être rendu à la justice doit être perçu comme le signe de cette possibilité et de cette volonté de s'amender. Abdel a volé et donné la mort sans préméditation. Il l'avoue et a droit à des circonstances atténuantes. L'avocat de la défense requiert dès lors une peine de 10 ans.
J'ai jamais voulu la mort de M. Leroy, ni lui faire du mal. Je comprends pas ce qui s'est passé. Et je le regrette.
Jeudi 16h. Première délibération du jury. Sur la culpabilité de l'accusé. Selon la formulation de la cour, Abdel est accusé principalement de divers vols avec infraction, vols commis à l'aide de violences et de menaces, lesquels ont entraîné la mort de M. Leroy sans l'intention de la donner.
Les 12 jurés sont enfermés dans leur local. On a déposé sur la table les pièces à conviction. Et aussi l'ensemble des chemises et classeurs formant le dossier du procès. Je me demande comment il a été possible de résumer ces centaines de feuilles dans les 50 pages de l'acte d'accusation. Les classeurs ne sont pas rangés selon un ordre évident. Il n'y a pas de sommaire. J'en compulse quelques-uns. Lorsque je lis les PV des premiers interrogatoires d'Abdel, je m'aperçois qu'il émane d'eux une richesse de contenu qui a disparu de l'acte d'accusation. Je constate que les récits sont beaucoup plus circonstanciés que leur résumé qu'il nous a été donné de lire, même s'ils sont parfois mal écrits ou rédigés dans une langue plus crue, plus frustre. Je rage. Pourquoi n'a-t-on pas mis à notre disposition l'ensemble du dossier dès le premier jour ? Pendant ce temps, quelques jurés s'affairent autour de la table des pièces à conviction qu'ils touchent et même brandissent. Leur voyeurisme m'écœure. Je dois interrompre ma lecture. La pression est très forte. La majorité des jurés veulent en terminer au plus vite. Quelqu'un propose de voter à main levée puisqu'il n'y a aucun doute sur la question de la culpabilité. Mais le juré numéro 1, l'institutrice, veut que tout soit fait selon les règles. Il nous donne à chacun un morceau de papier. Et tour à tour, nous allons dans l'isoloir écrire notre « oui ». Le juré numéro 1 rassemble les bouts de papier et dépouille nos bulletins. Oui, coupable, à l'unanimité. Le règlement exige que l'on brûle les bulletins de vote. Le poêle tire mal. Dans ce minuscule local, sans fenêtre, sans air, nous voilà suffoquant dans la fumée. On appuie sur le bouton de la sonnette pour avertir le gendarme de fonction que nous en avons terminé. Personne ne nous ouvre. Le gendarme a dû s'éloigner, ne pouvant sans doute pas imaginer qu'un verdict de culpabilité soit si rapidement promulgué. À force d'appuyer sur le bouton de la sonnette, celui-ci se coince. Tout le monde tousse. L'agitation est à son comble. Seul l'un ou l'autre s'esclave de rire. D'autres se mettent à frapper du poing sur la porte. La situation est grotesque. Enfin, après de longues minutes, le greffier entend nos appels et nous délivre.
Jeudi 18h. Deuxième délibération du jury. La peine.
Contrairement à la précédente délibération, celle-ci requiert la participation des trois magistrats. Sans leur toge, sans leur dentelle, sans leur toque. Leurs voix seront prises en compte.
La procédure est la suivante. On part de la peine maximum, puis on envisage progressivement les peines plus légères. Il faut une majorité absolue pour que la décision soit acquise. Lorsque c'est le cas, la procédure est interrompue.
Une discussion passionnelle se déchaîne. Elle est chaotique. Il n'y a pas de modérateur. On se coupe mutuellement la parole. Ce qui crie le plus fort domine, ce qui ressemble très peu à un débat. Je n'ai pas l'intime conviction qu'Abdel est passé à la violence, soit pour réclamer l'argent qui lui était dû, soit par résistance à ce qu'il percevait comme une agression sexuelle. Je pense que ces interprétations sont plausibles, plus crédibles en tout cas que la version maximaliste de l'avocat général. Mais, dans les déclarations d'Abdel et dans la plaidoirie de son avocat, quelque chose a manqué pour que j'en sois persuadé. Néanmoins, dans le doute, je soutiens la version minimaliste, celle présente dans les aveux d'Abdel et mise en exergue par son avocat. Je plaide pour une peine pas trop lourde, également pour valoriser le fait qu'Abdel a fait la démarche d'avouer et de se rendre. Si on n'en tenait pas compte, ce qui reste de confiance ou de référence en la justice chez les jeunes disparaîtrait. Mais les partisans de la peine la plus sévère possible font feu de tout bois. Le président se range à leur côté. Pour moi, la manipulation est manifeste. Selon eux, Abdel ment. Il n'a pas de remords, il n'a pas agi sous l'émotion, il a prémédité ses méfaits. C'est un dangereux récidiviste, il s'est acharné sur sa victime comme un sauvage. Un juré hurle, on sait comment cela se passe. Si on lui donne 10 ans, il n'en fera que 3 ou 4. Dans cette situation d'exaspération générale, je sens que je suis amené petit à petit à réagir émotivement. Ce qui affaiblit mon argumentation. Ni la victime, ni ses proches, ni l'avocat général, ni le président, ni ceux ici qui réclament le maximum ne me plaisent. En un instant, je les perçois même comme incarnant tout ce que je déteste dans la vie. À mon tour, je vocifère. Je prends a priori le parti du plus faible, de celui qui est écrasé. Ce n'est plus le sort de l'accusé qui nous occupe, mais une espèce de règlement de compte entre deux perceptions divergentes de la société dont les tenants et aboutissants se situent bien en amont et en aval de la situation présente. On vote dès lors pour les peines maximum et à chaque fois le nombre de ceux qui s'y opposent diminue. J'ai l'impression qu'on pourra descendre à 15 ans, jamais à 10 comme l'avocat de la défense le demandait. Je me trompe. La majorité absolue est acquise pour une peine de 20 ans. Dans le climat de tension qui s'est établi, je vis douloureusement cette décision. C'est comme si j'étais personnellement battu, comme si je recevais une gifle en plein visage. Tandis que plusieurs jurés se frottent les mains. Le juré numéro 6, l'artiste, si discret lors des échanges, éclate.
C'est scandaleux d'enfermer ce jeune homme pour 20 ans. Votre justice est une justice de classe. Si les rôles étaient inversés, si le roi, le diplomate, avait roué de coups et tué un jeune immigré qui l'agressait, il n'aurait jamais écopé de 20 ans. Il aurait peut-être même été gracié. Ce n'est pas juste.
La cour.
Nous, les jurés, nous installons pour la dernière fois à notre place. Tous les regards sont pointés sur nous. La pièce arrive à son épilogue. Lorsqu'à l'invite du président, le juré numéro un lit la décision du jury, Abdel, le condamné, plonge la tête dans ses mains et est pris de convulsions. Son avocat prend soin de lui. Tout au fond de la salle, la mère d'Abdel éclate en sanglots et s'effondre dans les bras de sa fille. Le visage de l'épouse de la victime ne trahit aucune émotion.
Je vous invite, monsieur Abdel Benadi, à accepter votre peine avec résignation. Réfléchissez sur les gestes graves que vous avez posés. Prenez votre situation en main, car votre vie est loin d'être terminée. La séance est levée.
Nous, les ex-jurés, passons une dernière fois dans notre réduit. On ne se parle pas. On ne se connaît plus. Comme avant le procès. Le président nous attend. Il nous remercie et se félicite que tout se soit bien passé.
Non, monsieur le président. Tout ne s'est pas bien passé. Vous nous avez dit que nous étions juges à part entière, mais on ne nous a pas donné les moyens d'être de bons juges. Vous nous avez traités comme des pions. Nous n'avons jamais eu l'occasion de consulter le dossier dans son ensemble. Nous n'avons su de l'affaire que ce que vous avez voulu en dire. Vous nous avez tellement intimidés que nous n'avons pas osé ouvrir la bouche en séance aussi peu. Le temps et les moyens ont manqué pour se forger une intime conviction. Sans modérateur, les délibérations du jury ont dérivé en propos de café du commerce. Seuls ceux qui criaient le plus fort se faisaient entendre. Vous-même, monsieur le président, avez imposé la décision lors de la deuxième délibération. Tout cela n'est pas correct.
Le président me toise, mais ne réplique pas. Je marche lentement et mes larmes se mêlent aux gouttes de la pluie qui s'abat sur la ville. Je ne suis plus juge. Je fus un juge sans lendemain. Je suis incapable d'être juge. Je suis un juge incapable. Tant qu'on est en acte de juger, il vous est interdit de donner prise à des états d'âme, de s'identifier à des judiciables, d'avoir pitié d'eux, de les aimer ou de les haïr. Et une fois la sentence de justice proférée, quelle qu'elle soit, c'est fini. C'est la décharge. On peut retourner serein à ses occupations. On peut se laver les mains de tout. Du sort humain du condamné, de ses proches, de la peine de la famille de la victime. Je me dis que tous les juges sont forcément des Ponce Pilate. Le procès d'assises qui se veut une reconstitution orale de l'instruction dans une unité de temps et de lieu, je l'ai vécu comme une séquence d'incroyable intensité humaine, secouant tous ses protagonistes. Mais que restera-t-il de cet étrange psychodrame ? Le jury populaire n'a ni le temps ni les moyens de se constituer en véritable sujet d'énonciation. Il n'est qu'un rouage dans une machine institutionnelle complexe qui a sa raison supérieure, un peu comme l'État, lui aussi, a sa raison et dont seuls les professionnels possèdent les clés. Pourtant, le paradoxe demeure. Le pouvoir de la condamnation appartient au jury populaire.
C'était Juge sans lendemain. Texte et réalisation, Marcel Auffler. Avec dans le rôle du juré narrateur, Pietro Pizzuti. Voix off, Fanny Marc. Dans le rôle du juge président, Jean-Louis Leclerc. Dans le rôle de l'accusé, Stéphane Boulche. Et avec les voix de Francine Bowie, Laurence Bronnier, Ethel Delame, Carmelo Iannuzzi, André Salgado, Gérard Thomas et Serge Tillmans. Prise de son et mixage, Xavier Jacques. Enregistré au studio Six et mixé au studio Blue Room. Une production de l'association Le Crayon Libre, 1999. Avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Communauté française de Belgique. Bien que cette fiction soit basée sur un procès réel, toute ressemblance avec des individus existants ou ayant existé serait fortuite et ne peut être imputable au réalisateur.